enregistre là.
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et pour nous, cette semaine, l'occasion de vous faire entendre certains des documentaires primés dans les festivals de France et de Navarre. Grand prix de la Société des gens de lettres de la fiction radiophonique pour Lettres mortes, vendredi. Prix de la réalisation et de l'interprétation masculine pour Vers le Nord, jeudi. Mention spéciale du jury au prix Ondas pour les corps solidaires, mercredi. Médaille d'or du New York Festival pour avoir 18 ans avec le VIH mardi. Et aujourd'hui, médaille d'argent en 2014 du New York Festival pour Danser quand même, les bals clandestins pendant la guerre de Perrine Kerfranc et Françoise Camard. Toutes deux, elles ont remonté le temps avec celles et ceux qui aujourd'hui se souviennent de leurs années adolescentes quand les talons allemands rythmaient l'interdiction des bals dans la campagne française. Et pourtant, des bals, il y en eut, avec accordéon, énergie, goût du secret et même parfois la compagnie des vaches. C'était une époque où être jeune poussait à prendre tous les risques pour simplement s'amuser et valser.
J'entends encore une voisine dans un village où on était, à Ebouche, pas mille biches. Les Bouches sont arrivées au moulin de la Pie, le canal Nantes-Brest, là. On n'était pas loin non plus. Alors, il faut partir.
Quand les Allemands sont arrivés, on les a vus arriver. Hein. Mais c'était... En arrivant comme ça, c'était des goélands, quoi. Parce qu'ils allaient dans le restaurant, ils commandaient une douzaine d'œufs ou un truc comme ça. Ils avaient faim, comme s'ils avaient faim. Puis les meilleures boissons, ben, ils prenaient aussi. Tout ça, c'était comme ça.
Dès que les Allemands sont arrivés, les bals étaient interdits, en 40. Et c'est là, pour nous, qu'on a dansé le plus. C'était les bals clandestins.
Danser quand même. Les bals clandestins pendant la guerre.
Alors nous, mon frère et moi, on jouait de l'accordéon et on faisait des bals tous les dimanches, en pleine nature. Dans des coins complètement retirés, dans une carrière désaffectée.
Ils sont jeunes, adolescents parfois. Ils aiment les airs à la mode et l'accordéon impertinent. Ils sont la jeunesse des campagnes et ils se retrouvent dans des granges, dans des maisons abandonnées, dans des clairières, dans des champs sur des terrains de boules, dans des couloirs, dans des étables, dans les cours de fermes isolées, à l'abri des talus, dans d'anciennes carrières, partout, que ce soit en Bretagne ou dans le Tarn. Et pendant toute la guerre, malgré les interdictions répétées et les condamnations morales, ils ont dansé quand même. Danser pour s'étourdir, pour se distraire, pour être tenu dans des bras, pour oublier, pour séduire, pour être ensemble, pour que jeunesse se passe, pour braver leurs parents, pour laisser derrière eux leur journée de travail, mais surtout pour le plaisir de tourner dans un sens puis dans l'autre et de danser la valse, la rumba, le tango ou la marche. Et à force de bals clandestins, non seulement ils dansaient rudement bien, mais ils se construisaient des souvenirs parce que pendant la guerre, étrangement, la vie continue.
C'est la java bleue. Alors, la java la plus belle. Mais ça, on jouait ça, Rikuna, Rikita, jolie fleur de Java. Viens danser, viens donner des baisers. C'est les premiers morceaux qu'on jouait. On jouait tous les deux. Ou c'était son accordéon, ou c'était le mien.
Alors tous les deux, c'est qui? André
Roth. Oui, et Serge Droite.
Voilà. Il m'appelait Loulou, moi je l'appelais Dédé. J'ai acheté l'accordéon
L'année de la guerre, hein, 1940, et toi, à peu près pareil.
À peu près pareil. À l'époque, on devait avoir 15 ans.
Non. En 40, on avait 13 ans. Oui. Et alors, ils nous demandaient, pour ça, on a commencé à faire des petits bals comme ça, pour les noces, les mariages, les communions, les réunions de famille. Et puis ça s'est agrandi, puis c'est comme ça que c'est venu, les bals clandestins.
Donc les balles étaient interdits. Qu'est-ce qu'ils organisaient alors?
Eh bien, c'est jeunes avec le maquis avec les paysans du coin, quoi.
Ouais, c'est bon, voilà, le plus jeune du coin.
Le plus volontaire. Le plus volontaire, voilà. On jouait souvent sur une table. Hein. Ils mettaient une table sur une chaise.
Sur une charrette.
Sur une charrette. Hein.
Et ça, vous, comment on vous prévenait qu'il y allait avoir un bal?
Ah, on était prévenus, vous savez, la bouche à l'œil.
Ça, c'est le téléphone arabe, ça.
Ah, c'était facile.
On avait des ballons d'affiché.
Je ne sais pas, mais d'un bal à l'autre.
Et c'était dans des endroits cachés, dans des granges, dans la forêt? C'était où?
Mes grands-parents, ils disaient que... aux portes, ils mettaient des couvertures, des sacs pour empêcher qu'il y ait de la clarté.
Ah oui.
Pour éviter que ça reste quand même assez caché.
On a même fait des balles aussi à Laval, dans l'écurie, au milieu des vaches. C'est-à-dire que je me rappellerai toujours, c'est que d'un côté il y avait des vaches, et l'autre... Tu vas leur expliquer.
C'était une grande pièce où il y avait au moins 10 vaches à chaque côté, si ce n'est pas 12.
Et la brevoire au fond.
Et au fond, il y avait l'eau. Ils arrivaient à avoir récupéré de l'eau pour aller au bassin. Et sur ce bassin, qui était de 2 mètres sur 90 par là, de planches, et le musicien, alors, tout en faisant la corde, cette planche, ça, je me rappelle, j'ai quelques moments. Ça, et voilà, et ça retourne, ça dansait.
Ce qui était marrant, c'est que les danseurs, quand ils dansaient souvent une valse, une java, un truc comme ça, parce que c'était l'époque de marche, valse, java, c'était pas compliqué.
Oui.
Et en dansant, souvent, ils avaient le pied qui glissait et qui tombait dans la bouse.
Ah, oui.
Alors, ça ferait, ils tapaient un peu la godasse et puis ils recommençaient à danser sur la terre battue.
Ce qu'il y avait à la fin aussi, il y avait des paniers de gâteaux, de soins de bruvelette, des oreillettes, tout ça, et la bonbonne de vin blanc.
Ah oui, c'était sympa.
Ah, ça, c'était...
C'était les premiers bals qu'on a fait, ça.
Ah
c'est
oui,
les premiers bals.
Je me rappelle.
Je m'en rappelle, comment c'est...
Pour une foule. Je me rappelle.
C'est resté comme ça. C'était les premiers, tout à fait les premiers au début. Alors après, il y a eu les Denis, Montet, tout ça, à Valais. Et après, on est monté chez Louisou, après on est monté aux Barrières. On descendait au Verdier, du Verdier on allait à Saint-Bosile, chez Delmas, on a fait des quantités.
Oh, on était très demandés à l'époque.
Alain Quillet-Véré, vous avez travaillé sur la question des bals clandestins, vous avez fait un mémoire sur cette question des bals clandestins en Bretagne. Est-ce que vous pouvez peut-être, pour commencer, nous parler des bals avant la guerre, de l'importance que ça avait, de la place que ça avait?
Alors avant-guerre, dans les côtes du Nord, puisque j'ai travaillé essentiellement sur les côtes du Nord, les bals occupent une place extrêmement importante. On peut dire, sans se tromper, que c'est un loisir de masse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fête, de réjouissance qui ne se termine par un bal.
Et quand est-ce qu'on danse?
Alors, on danse le dimanche, ce qui explique d'ailleurs l'hostilité de l'Église catholique. Il y a ce qu'on appelle la matinée, qui en fait commence aux alentours de 16h, et puis la soirée, qui commence aux alentours de 19-20h.
Et alors, à un moment, les bals vont être interdits. Alors, est-ce que c'est au moment de la déclaration de guerre? Est-ce que c'est au moment de l'armistice? Comment ça se passe?
Alors, en fait, il y a plusieurs temporalités. Au moment de la déclaration de la guerre, il y a des interdictions au niveau parisien qu'on ne retrouve pas en Bretagne. Mais dans les faits, il y a pratiquement très peu de bals. tout simplement, je pense, parce que les musiciens et éventuellement les danseurs sont mobilisés. En tout cas, il n'y a pas d'interdiction formelle sur les Côtes du Nord, mais dans les faits, on ne retrouve plus d'annonces de balles dans la presse, donc ce qui sous-entend qu'ils ont quasiment disparu. Au moment de l'offensive allemande de mai 40, c'est l'un des derniers actes qui est pris par le ministre de l'Intérieur, l'interdiction des balles d'abord à Paris, puis étendue à l'ensemble du territoire. Ensuite, donc les Allemands s'installent en Bretagne à partir de la mi-juin et ils interdisent tout rassemblement de quelque nature qu'il soit. Le 2 mai 1941, les autorités allemandes promulguent un décret qui a valeur nationale par lequel ils transfèrent tout ce qui concerne les fêtes populaires, les foires, etc. et les bals aux autorités françaises. Donc cela relève désormais de leur autorité, l'autorité de Vichy bien sûr. Dans la foulée, le préfet des Côtes du Nord lui-même promulgue un arrêté préfectoral qui interdit les balles dans son département. Alors les autres préfets en font bien sûr autant. Mais ce qui est intéressant dans l'arrêté en question, c'est qu'il est précédé d'une lettre au maire dans laquelle le préfet explicite sa décision. Voici cette lettre au maire. De différents côtés, il me revient que des cafetiers, des hôteliers ou même de simples particuliers auraient recommencé à organiser des bals à l'occasion des fêtes ou même le dimanche au mépris de toute décence. J'ai l'honneur de vous prier d'attirer à nouveau l'attention des personnes intéressées de votre commune sur le fait qu'il n'est pas possible de tolérer actuellement des divertissements de cette sorte alors que tant de familles ont été frappées par des deuils et que beaucoup d'entre nous ont des parents très proches en captivité. Dans les circonstances pénibles que nous traversons, il convient de rappeler à ceux qui auraient tendance à l'ignorer que c'est de reconstruire le pays qu'il s'agit en ce moment. Pour cette œuvre, le chef de l'État compte sur la jeunesse. Aussi a-t-elle assurément mieux à faire que de se livrer à des divertissements sans idéal dont, au surplus, ni l'esprit ni le corps n'ont à bénéficier. Vous trouverez 6 juin ampliation de mon arrêté du 23 mai courant interdisant jusqu'à nouvel ordre tout bal dans les lieux publics. Article 1er. Jusqu'à nouvel ordre, aucun bal public ne pourra être organisé dans les dancings, salles d'hôtel, restaurants ou cafés ou autres lieux publics. Les danses en dehors des habitations privées sont soumises à la même interdiction. Article 2. Aucune dérogation à cette interdiction ne sera accordée, quel que puisse être le but poursuivi et la destination des recettes. Donc on voit bien que cette fois-ci, les motivations de l'interdiction ne relèvent plus du tout de la défense nationale. Les combats sont terminés, il n'y a plus de risque de bombardement, etc. On est vraiment dans un registre uniquement moral. Et le préfet fait tout à fait sienne les exhortations du maréchal et de son équipe qui voit la défaite de 40 comme la punition de l'esprit de jouissance. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les discours du maréchal Pétain. En clair, on peut y voir, enfin en tout cas, non pas en clair, mais en filigrane, les conquêtes du Front populaire.
Un ordre nouveau commence. Vous serez bientôt rendus à vos foyers. Certains auront à les reconstruire.
Le maréchal Pétain, juin 1940.
Vous avez souffert, vous souffrirez encore. Beaucoup d'entre vous ne retrouveront pas leur métier ou leur maison. Votre vie sera dure. Ce n'est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Comptez pour le présent, sur vous-même, et pour l'avenir, sur les enfants que vous aurez élevés dans le sentiment du devoir. Nous avons à restaurer la France. Montrez-la au monde qui l'observe, à l'adversaire qui l'occupe, dans tout son calme, tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous conduis. Français, vous l'accomplirez et vous verrez, je vous jure, une France neuve surgir de votre ferveur.
Il s'agit bien de punir cet esprit de fête, de jouissance. Et ce qui est très, très amusant, c'est que Beaucoup d'autres divertissements continuent à être autorisés, le cinéma, le théâtre, les concerts, les spectacles de danse classique. Mais ce qu'on punit dans le bal, c'est évidemment le rapprochement des corps, l'érotisme diffus, le fait que les garçons et les filles soient dans une troublante proximité. C'est bien ça qui est puni, hein, qui est pourchassé.
Danser dans vos bras le dimanche, ça donne bien du plaisir. On tourne, on se frôle, on se penche, on pousse des soupirs. On va s'embrasser sous les branches, on fait des projets d'avenir.
Oui, oui, c'est, j'étais pour danser, oui. Ah oui, les balles.
Germaine Olivier.
Même les fonds de la salle, on me faisait signe, quoi.
Et vous aimiez ça, les balles,
hein? J'aimais danser, mais ça n'allait pas plus loin. Ah non, j'en ai même foutu des baffes des fois à des garçons. Ah oui, il n'y a pas plus beau quand il y a deux qui s'aiment. Mais aller faire ça avec n'importe qui, alors dis donc, elle préfère rouler sur un train, que le train passe sur moi.
Et votre mère, elle vous laissait aller au bal pendant la guerre, ça ne la dérangeait pas?
Oh non, 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 elle aimait aussi danser quand elle était jeune, mais elle me disait, en breton, elle me disait, « Chante-en, sale, tu restes danser. » Parce qu'elle avait peur peut-être que je sorte avec les... Mais elle n'avait pas besoin d'avoir peur. Et c'était... Ah oui, moi je... Oh là 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 là. Elle est encore au bal. On te baloise, comme disait que ma mère me disait. J'ai dit oui, oui, je vais au bal tous les dimanches. Oh. Et la Java bleue, ben j'ai valsé celle-là souvent. J'étais une championne là-dessus.
Et alors vous alliez, Eugénie Torchard, vous alliez au bal clandestin pendant la guerre?
Bien sûr. Quand il y avait des mariages comme ça, ben, on discutait le dimanche avec les autres et puis on se dit, ah tiens, tel et tel jour, il y a un mariage, est-ce qu'on ira encore? On était 5 ou 6 à aller comme ça. Des copines qui travaillaient dans les fermes comme moi aussi, bien sûr, des boniches. Mais enfin, c'était ça notre vie. Et puis, ma mère nous pétait après quand... je crois qu'elle est sortie en cœur hier soir, que disait Rosalie. Aussi, avec son balai, elle tapait au plafond. Ah, il est temps de se lever. Il fallait se lever plus tôt. Mais enfin, ça fait rien. On était de bonne humeur. Et on chantait après en trayant les vaches et tout. C'était beau. Mais c'était clandestin. Mais pour nous, c'était pas clandestin. Nous, on allait comme ça pour faire une partie, pour passer le temps, et puis pour voir. Et on trouvait un petit copain, et puis peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois après, il y avait un autre, et puis on allait encore. Alors, bon, c'était comme ça.
Et c'était l'après-midi ou c'était le soir?
Ah non, c'était le soir. Hein. Oh, il fallait faire notre journée de boulot. Et on n'allait pas trop loin, puisqu'on a été obligé d'aller à pied aussi. Oh, mon Dieu.
Dès qu'il y avait un bal, bah, on se réunissait, on faisait un bal, on était facilement 100-150 personnes.
C'est des grands bals, ça.
Ben, il n'y en avait pas beaucoup.
René Kerluer.
Il
n'y
en avait pas beaucoup. Il y avait des gens qui venaient, je me souviens, qui venaient de Trémel. Ça leur faisait 14-15 kilomètres pour venir au bal. Et de Plouaret, tout ça, ils venaient à Ploumillot. On trouvait un coin isolé et tranquille, et puis on s'amusait comme ça. C'était pas le bordel entre nous, comme on dit. On était bien.
C'était pas pour flirter?
Non, c'était pas pour flirter. C'était pour danser, pour se distraire. Moi, je dansais. Mon frère ne dansait pas. Mon problème, pendant la guerre, justement, c'était de fournir des chaussures. Alors j'avais un cordonnier qui était bien, un copain qui était bien sympa. Alors j'achetais des semelles de bois articulées et puis me faisait un ressemblage en cuir là-dessous. J'étais garanti.
Pendant la guerre, vous jouiez sur quel accordéon?
Regardez, j'avais commencé là-dessus.
Ah, vous dépassez à peine de l'accordéon, on voit votre tête.
On croit que j'ai une moustache, regardez, ça c'est l'accordéon.
Et donc là, vous aviez quel âge?
J'ai gagné avec concours, bah, écoutez, c'était
11 ans, donc c'était 2-3 ans avant de commencer dans les bals clandestins.
Ben, c'est avec celui-là que je devais être dans les bals clandestins, voilà.
Il y avait votre nom sur l'accordéon, Marcel Azzola.
Ah bah oui, attention, c'était pas n'importe qui, hein. Puis là aussi, il y a le nom. Mais ça, c'était l'accordéon de concert, vous voyez.
Comment est-ce que les gens ils prenaient contact avec vous? Comment est-ce qu'ils savaient? Parce que si vous étiez jeune, vous étiez encore presque un enfant au début de la guerre.
Oui, mais j'étais déjà un professionnel. J'ai commencé très tôt le métier. J'ai commencé le métier vraiment à 11 ans. Dans les brasseries, il y avait encore des brasseries avant que tout s'arrête. Hein. Et donc j'avais déjà, si vous voulez, une petite réputation. Et ça se passait plus par quartier. On savait qu'il y avait un musicien là qui pouvait éventuellement... pourvoir à la demande. En tout cas, je sais que ça me servait à payer mes leçons, et pour moi, c'était l'essentiel. Je me souviens particulièrement de la rue Turbigo, parce que j'ai dû y aller plusieurs fois.
Et c'était comment, rue Turbigo?
Un appartement. C'était pas des dancings pour moi, c'était vraiment des appartements. Celui de la rue Turbigo, il était, je crois, au second étage. Un appartement peut-être assez grand pour tenir peut-être, je sais pas, 7, 8 ou 10 couples, peut-être. Des appartements, donc, et puis aussi des pavillons de banlieue. J'ai un ami qui me disait, de temps en temps, quand il y avait un quart de police ou les estafettes allemandes qui passaient dans la rue, et il fallait se dépêcher de se planquer, il fallait se dépêcher soit de passer par la fenêtre pour aller dans le jardin. Moi, j'ai pas connu ça. Je me suis pas débiné avec mon accordéon par la fenêtre.
On était deux copains, quoi. On a appris ensemble, on est toujours restés ensemble. Mais en plus, on nous prenait pourquoi? Parce que lui, il avait son répertoire, moi j'avais le mien. Alors ça faisait quand même un répertoire un petit peu plus.
Oui,
c'est un peu plus long.
Ça nous permettait de danser l'un et l'autre, hein, comme vous comprenez. Moi je jouais de danser, inversement, voilà, on dansait aussi, on s'amusait. Et donc,
Loulou, on avait du succès quand même à ce moment-là. Hein.
C'était l'époque de Dino Rossi. Marine, tous les trucs de Tino Rossi, le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que je danse dans vos bras. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. C'était.
Oh,
je me rappelle, il y avait un morceau qu'on jouait aussi souvent. Vous avez une rose au corsage, gardez-la jusqu'au jour du mariage. Et tu vois, des trucs comme ça, vous voyez, des petits trucs.
Mon premier morceau que j'ai appris à l'accordéon, c'était Princesse Xardas. Et ça faisait la, 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 vous voyez.
Non,
c'est classique. Je ne sais pas si je me rappelle maintenant. C'est pas.
Il y avait toujours du monde.
Il faut dire qu'on n'avait pas un grand répertoire. Quand on avait fini, on recommençait. Quoi.
Il faut dire aussi qu'on gagnait bien notre vie.
Les sous qu'ils nous donnaient à l'époque.
Pièces trouées, hein. C'était la manche. Il y a quelqu'un qui avait une casquette et nous ramassait la manche. Et on ramassait tout ça. Mais moi, j'ai trouvé, des fois on calculait, et on gagnait autant dans un bal comme ça. Oui. Que l'ouvrir à la semaine, hein, le salaire.
Et comment on fait alors concrètement? Parce que le couvre-feu est un impératif, on pense aux bals qui se déroulent en soirée, les Allemands, eux, imposaient le couvre-feu.
Oui, et là, en l'occurrence, on peut dire que les gens qui participent à des bals clandestins, en fait, violent deux fois la loi. Une première fois, celle de Vichy, et une deuxième fois, celle de l'occupant. Alors, au tout début, ça n'a pas forcément de conséquences dramatiques. Les gens qui sont interpellés par les faits de gendarmes sont amenés en général à la gendarmerie ou passent quelques temps au poste des faits de gendarmes, mais c'est pas bon, ça va pas forcément plus loin. À partir du moment où la résistance commence à s'organiser et commence surtout à entrer dans la lutte armée, ça peut devenir beaucoup plus dangereux de circuler la nuit, surtout s'il y a eu un attentat ou quelque chose de ce genre. Hein. Les Côtes du Nord, à cette époque-là, sont un département qui est extrêmement rural, avec énormément de petits hameaux très disséminés. Les Allemands n'ont pas la possibilité matérielle d'occuper tout le territoire. Ils sont très concentrés sur la côte, hein, pour les raisons qu'on imagine très bien. Il y a une forte concentration de troupes sur la côte. Mais dans les villages les plus reculés, ce sont des patrouilles qui circulent de temps en temps. Les jeunes paysans et les jeunes paysannes connaissent très très bien le moindre recoin, le moindre chemin, et ils arrivent assez facilement à éviter les patrouilles allemandes. Donc.
Et alors qu'est-ce qu'on risque, Alain Quitéveré, quand on organise un bal clandestin? Quelles sont les sanctions?
Les danseurs ne sont jamais inquiétés, jamais interpellés. Au grand dam du préfet d'ailleurs, qui voudrait bien que ce soit le cas, mais c'est jamais le cas, il n'y a pas eu de texte en ce sens-là. Les musiciens et les organisateurs, au fond, partagent le même sort. Alors, ils risquent d'abord une amende, ensuite, un peu plus tard, ils risquent la confiscation de l'instrument. Si l'organisateur est un propriétaire de local, genre café, dancing, etc., voire même un propriétaire privé, mais qui a mis à disposition des musiciens une grange, par exemple, eh bien, il est assimilé, il est considéré comme un organisateur. Et à ce moment-là, il a une amende, bien sûr, mais il peut, si c'est un restaurateur, il peut avoir son établissement fermé. Et dernier stade ultime dans la répression, c'est l'internement administratif. Alors, c'est quand même c'est assez violent. Ça a été très peu usité.
On se frôle, on se penche, on pousse des soupirs, on va s'embrasser.
Pendant la guerre, ma mère qui me disait, je peux parler en breton, ben fin visère quand le bochet, à la fin tu seras ramassé avec les boches, à force d'aller tous les dimanches. Oui, non, il ne m'avait pas ramassé. Mais ça fait rien, on avait peur quand même. Je sais qu'il y avait des Allemands partout, là, c'est pour ça ma mère me disait ça. Ah oui, des fois je faisais deux balles, des fois dans la... on ramassait des œufs des fois pour payer l'entrée du bal, hein, parce que de l'argent il n'y avait pas beaucoup. Alors oui.
Alors... Il fallait payer le bal?
Ah ben bien sûr, il fallait payer quelque chose, oui. Oui. Chez mes parents, une fois, dans une grande grange qu'on avait là, on faisait bal là-dedans. Et puis dans les maisons aussi comme ça, mais il n'y avait pas de salle de danse dans les campagnes. Mais c'était bien. Et puis des danses bretonnes. Les vieux, ils dansaient, puis ils chantaient. Moi, j'avais mon père qui chantait bien, alors il chantait pour les danses. Et puis il y avait un autre dans le village, c'est pareil. Alors, on dansait comme ça, en rond, oui, dans la maison. Il y avait aussi des danses après les moissons. Et puis, quand on arrachait les patates aussi, des fois, comme ça, il y avait aussi, oui, des danses. Ils chantaient, il y avait deux qui chantaient. Il n'y avait pas de musiciens, ils chantaient, puis on dansait. Il y avait aussi des danses drôles, comme ils appelaient. Comme ça, quoi, en rond, voilà, danses drôles. Une drôle, ça veut dire le tour.
On surveillait toujours de loin ce qui pourrait arriver si les Allemands arrivaient. Bon, on dansait, on sautait, mais c'était le seul rendez-vous aussi. Ça me rappelle, c'était un 6 juin à Saint-Carré. À Saint-Carré, on avait un mariage. On avait donc monté une tente, la tente était louée par la famille. Et puis, il est arrivé que la tente a été remarquée et puis les avions ont survolé. Il y a eu de la mitraille. Le soir, les Allemands sont venus.
Il y a eu le bal quand même.
Il y a eu le bal quand même, mais bon. Je crois même qu'ils ont dansé, les Allemands, à la fin. on a dormi tous un peu sur place. Il y en a qui dormaient dans le grenier sur le tas de blé. C'est un peu comme ça.
Mais pour ne pas rentrer la nuit.
Pour ne pas rentrer la nuit, parce que le couvre-feu avait lieu à 9h, je crois, à l'époque. Il y en a qui ont été pris, puis qui ont été envoyés après travailler en Allemagne, oui. Les classes 42 surtout, qui venaient se cacher du côté de chez nous, qui sortaient de chez eux, et puis allaient chez les parents ou chez des amis pour se faire repérer, quoi. J'ai connu un Saint-Michel qui n'est pas revenu. Hein.
Ceux-là, quand ils savaient qu'il y avait des Allemands qui approchaient, ils partaient en vitesse, quoi, parce que... Quand ils avaient presque tous des fausses cartes d'identité, quoi. Des réfractaires, quoi.
Comme quand on faisait des balles comme ça, ça circulait pas mal, il y avait toujours quelqu'un qui nous avertissait. Alors avant que les gendarmes arrivent, on avait des guerpies, puis on était tranquille.
Mais parce que c'était interdit, les balles.
Oui, oui, c'était interdit, oui. Plus par les gendarmes que par les Allemands. Oui, les Allemands ne s'occupaient pas de ça. Entre nous, en principe, jusqu'en 1942, ce n'était pas la guerre. Après, bien sûr, c'était... il fallait faire attention.
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées aussi après, oui. Avec les milices, la milice,
voilà.
À Pétain.
Oui, hein. Voilà, c'est ça.
Oui, il y avait beaucoup de jalousie, vous savez. Oui. C'était en 1943 ou
1944,
voilà, à peu près. Alors, il y avait des gens qui avaient des prisonniers, il y en avait d'autres qui étaient en travail obligatoire, déportés ou tout ça. Alors,
on avait des dénonces souvent.
Mais on ne comprenait pas que ceux qui restaient, il fallait qu'ils s'amusent aussi.
Une nuit, c'est la nuit noire des mythes et des légendes, fidèle au poème, fidèle à ses bouches, fidèle, c'est difficile d'être fidèle. À ces femmes de bal, il y avait quand même quelques femmes, il y avait quelques couples qui dansaient. Mais nous, on était très jeunes, on ne savait même pas danser. Alors, on s'amusait tout autour. Et ça finissait souvent par des choses folkloriques. On dansait le rondo, on dansait des trucs comme ça. Ou alors, on faisait des rondes, comme pour les mariages, avec il y a une petite danse, avec le banquier du Nord, des choses comme ça. Et alors, quelquefois, il y avait des maquisards. Alors, je me souviens, la première fois, mon grand-père me dit, tu vois, là-bas, c'est des maquisards. J'avais été très déçu, parce que, après avoir vu les Allemands équipés comme ils étaient, moi, je m'attendais à voir des gars à la guérison, la barre de cartouches, des armes partout, comme ça, il y avait 4-3 types dans un coin, mal rasés, une casquette, une espèce de treillis, plus ou moins dégueulasse. Ça faisait drôle, quoi, de voir ça à côté. Et alors, ces braves maquisards venaient surtout pour traiter avec les bergers, parce qu'ils arrivaient à avoir un mouton, des choses comme ça. Et ils venaient traiter et puis passer un moment. Et surtout, charger les batteries. Il y avait une batterie pour leur poste de radio. Tout le monde s'arrêtait, il y en a deux ou trois qui sortaient voir sur la route s'il ne passait rien. Il y avait le poste de radio sur le coin, mais du coup de l'autre.
Pascal Lamige, en fait, vous êtes musicien, accordéoniste, et vous avez mis au point un spectacle où vous mêlez vos compositions et des témoignages que vous avez recueillis au fur et à mesure sur l'histoire des bals clandestins.
Tout à fait. Mes parents se sont rencontrés dans un bal clandestin, dans la région bordelaise, dans une guinguette au bord de la Garonne, qui existe toujours. En 2003, sur Bordeaux, avec des copains, on a fait un bal clandestin. Le jeudi, on est parti interviewer une grand-mère, et le dimanche, j'ai diffusé le montage et j'ai improvisé de l'accordéon par-dessus. Et je m'étais fait aider à l'époque par deux copains, un bassiste et un batteur. Et donc on a arrêté le récit et hop, on jouait un petit morceau. Comme ça. C'est comme ça que c'est né. Très vite, j'ai eu des témoignages d'un petit peu partout. Et c'est parti comme ça et on a baptisé le spectacle Rave Musette. Parce que Rave, comme une rave party, puisque ça fonctionne sur le même mode, la clandestinité.
Et vos parents, Pascal Lamy, vous avez parlé de leur rencontre dans les bals clandestins, vous avez raconté un peu ça, ça faisait partie de l'histoire familiale ?
Ma mère, elle m'a fait part de l'interdiction qu'il y avait de la part de ses parents. C'est-à-dire qu'elle allait au bal en cachette. Elle m'a raconté que quasiment le jour où la semaine suivante la rencontre avec Donc avec celui qui allait devenir mon père, il y a une patrouille de soldats allemands qui arrivait dans l'auberge là où se tenait le bal. Et ils ont sauté par les fenêtres.
Elle avait conscience de faire quelque chose, alors de dangereux peut-être pas, en tout cas de braver un interdit, pas seulement auprès de son père, mais d'aller à un bal clandestin parce que les bals étaient interdits. Ou est-ce qu'elle y allait uniquement parce qu'elle était jeune et qu'elle avait envie de danser? Est-ce qu'elle se souvient un peu dans quel état d'esprit elle était?
En ce qui concerne ma mère, vraiment, c'était plutôt l'insouciance de la jeunesse. Comme beaucoup de jeunes filles de cette époque-là, c'était la passion de la danse. Elle savait que c'était interdit, mais elle s'en foutait. Elle pensait que, bon, de toute façon, on lui aurait peut-être pas fait grand mal si elle avait été attrapée.
Et est-ce que, justement, il n'y a pas une continuité d'un discours sur la danse qu'on tenait avant-guerre, qu'on tient encore pendant la guerre, notamment de la part de l'Église?
Oui, tout à fait. L'Église a mené une lutte acharnée, on peut le dire, contre la danse. Alors, contre un certain type de danse, surtout, hein, contre ce qu'on appelait les danses nouvelles, après, qui sont arrivées juste après la guerre de 14, notamment le tango, qui est considéré comme quelque chose de l'immoralité faite danse, enfin les danses de couple en général, et on a des documents, hein, alors notamment dans les enquêtes que l'évêque commande à ses prêtres à l'occasion des visites, ce qu'on appelle une visite canonique, donc c'est une inspection de la paroisse, les prêtres ont à remplir un document d'une quarantaine de pages, et parmi les questions, y a-t-il dans votre paroisse des salles où l'on danse avec ou sans piano, qu'a-t-on fait pour faire cesser ce désordre? Bon, puis après il y a d'autres questions, mais qui sont intéressantes parce qu'elles sont quand même liées sur les naissances illégitimes et sur la baisse de la foi dans la paroisse. Il y a des sanctions comme le refus de sonner les cloches, par exemple, pour un baptême ou pour un enterrement, ou le fait que, par exemple, le baptême aura lieu le matin à 8h en catimini, des choses comme ça. Alors évidemment, ce que l'on voit, c'est que dans une certaine mesure, le gouvernement de Vichy réalise ce qui était le vœu de l'Église. L'Église n'a pas réussi à empêcher les bals, et le gouvernement de Vichy, lui, l'a interdit. Alors je pense même que, au fond, l'habitude de ne pas obéir aux mandements de l'Église a sans doute prédisposé, je dirais, les gens à ne pas obéir plus à ceux du gouvernement de Vichy.
Alors, vous disiez, Alain Quillévéré, aussi que les noces étaient un cas particulier dans cette histoire des bals clandestins.
Oui. Alors, il faut savoir que les noces, à l'époque, en Bretagne, mais comme dans beaucoup d'endroits, sont rythmées par un certain nombre de danses rituelles. Et il est de notoriété publique que toute la jeunesse des environs y est invitée. Il y a de nombreux bals de noces parce que je fais l'hypothèse que, dans la mesure où... Là, le bal a une fonction sociale nettement marquée. Je pense que il vaut mieux pour les gens violer la loi que de déroger à cette règle non décrite. C'est-à-dire que socialement, le coût social est bien moindre de payer une amende et d'être verbalisé par un gendarme que de ne pas faire bal et d'être mis, j'allais dire, au banc de la collectivité. Et de toute façon, les jeunes gens viennent, ils arrivent, ils sont là. Et donc, souvent, les gens dans les procès-verbaux, les organisateurs ou les mariés disent on a cédé à la pression de la jeunesse. Mais cette pression, elle est réelle.
Vous dites aussi, Alain Quillévéré, qu'il y a en ville un certain nombre de ruses qui sont mises en place autour des cours de danse, pour danser quand même.
Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est pas seulement la Bretagne, puisque à Saint-Brieuc, il n'y a qu'un seul cours de danse dans le département, à Saint-Brieuc. Les gens, en fait, les propriétaires de ces cours de danse ont bien vu la mine d'or que cela représentait, et le cours de danse, en fait, se transforme progressivement en bal. Et le ministre de l'Intérieur, on est conscient, et va édicter un certain nombre de réglementations sur les cours de danse pour éviter cette dérive.
J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chipée pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon
mon Jules,
il n'est pas taillé comme un Hercule.
C'est pas un
peine de la voir. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. Hein, et je l'aime. Bon. Et puis, il y avait la Java bleue qui faisait. Enfin, voilà. Pour moi, c'était faire. Enfin, je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait bien que je paye mes leçons et puis je voulais continuer à vivre. Mais.
Marcel Azzola.
Pour moi, je ne me suis jamais vanté d'avoir participé à des bals dits clandestins. J'avais l'impression de faire une mauvaise action. Je vous le dis maintenant, j'en suis pas fier. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas forcément faire preuve de collaboration, mais c'était pas bien. Pour moi, dans ma petite tête, et je pense encore comme ça. Donc, cette situation douteuse, la guerre, donc le front, les morts sur le front, les planqués. En fait, moi, jeune, je pouvais pas être à la guerre, j'avais pas l'âge. Et tout le monde n'est pas Guy Moquet non plus. Hein. Mais peut-être qu'il aurait fallu refuser de distraire ces gens qui voulaient danser. Mais alors, à ce moment-là, je pouvais même plus du tout exprimer le peu que j'apprenais avec mon professeur. Et je ne sais pas. Pour moi, c'est toujours un petit peu. C'est peut-être une des raisons qui fait que j'en ai jamais vraiment parlé de ça.
Il y avait des chants.
La Madelon.
Comme par exemple, on avait transformé certains couplets. Je me rappelle de « À quel plaisir qu'on a ». Ça, c'était « À quel plaisir qu'on a ». D'entendre la DCA, quand les avions anglais survolent nos anglais. Parce que les Allemands tiraient sur les avions, et nous on regardait les balles traçantes des Allemands.
Et vous vous souvenez du moment où, à la Libération, les balles ont été autorisées de nouveau ?
Ben oui.
Alors comment ça s'est passé ? Vous vous souvenez un peu ?
Ben on a arrêté les balles, aussitôt on a arrêté les balles clandestins, et on a réorganisé les balles comme avant la guerre. Alors, les balles reprenaient pour les pardons, pour tout. Parce que systématiquement, par ici, le jour du pardon, il y avait un bal dans la commune. C'était le reflet de la fête. Alors, je vous dis, c'était pour le 14 juillet, le 15 août. Et puis, les petits pardons, quand c'était le pardon de Thérèse, il y avait bal de Thérèse. Plumio, il y avait balle à Plumio et c'était automatique.
Est-ce que avec la libération, est-ce que tout d'un coup, avec les balles de nouveau autorisées, ça a été une explosion ? Est-ce que ça s'est multiplié ? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où tout d'un coup,
ça jouait partout. Le moindre bistrot, il y avait l'arrière-salle ou le devant de la salle. Les gens avaient un besoin de distraction. Oui, ça, bien sûr. Puis les établissements repartaient avec des bons orchestres, avec des orchestres même qui venaient de loin. C'est à ce moment-là qu'on a vu arriver les Sud-Américains, qu'on a vu arriver... Mais le Brésil était plus présent déjà. Cuba aussi, avec des rythmes qui arrivaient, avec la samba déjà qui se pointait, puis dans les chansons françaises, il y avait déjà ces rythmes-là qui venaient s'immiscer, quoi.
Et est-ce qu'on voit à la fin de la guerre assez rapidement le retour des balles ? Comment ça se passe, la levée de cette interdiction ?
Voilà, alors ça a été ma très grande surprise. C'est que on associe souvent dans notre imaginaire aujourd'hui la libération avec les balles. Alors c'est vrai qu'au moment de la libération, on danse. Ce sont des balles spontanées. Mais en fait, les autorités issues de la résistance maintiennent l'interdiction des balles avec des arguments qui ne sont pas aussi éloignés qu'on pourrait le penser de ceux du gouvernement de Vichy. Donc... En novembre 1944, le préfet des Côtes du Nord écrit au maire, commandant de gendarmerie, sous-préfet, etc., la lettre suivante. Les bals publics restent formellement interdits, même ceux qui seraient organisés dans un but de bienfaisance. Seuls les bals privés organisés à l'occasion du mariage sont autorisés. Conséquemment, l'ouverture de salles de danse ainsi que la réouverture de celles qui fonctionnaient avant la guerre sont tout à fait inopportunes tant que les hostilités ne seront pas terminées. Un petit peu plus tard, le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, donc le 2 janvier 1945, envoie un nouveau texte au préfet, que je vais vous lire également. Donc, la guerre n'est point terminée, de nombreuses familles sont en deuil, et la France compte plusieurs milliers de sinistrés, de réfugiés, de prisonniers et de déportés en Allemagne. Le Conseil des ministres considère qu'alors que tant de Français souffrent et meurent, l'autorisation des bals publics serait hautement inopportune. Et on voit bien qu'on reste dans le même registre de la condamnation morale qui associe au fond la danse avec le monde interlope, avec le marché noir, avec l'immoralité. Alors, ceci dit, c'est une position qui n'est plus guère tenable et assez rapidement, il va y avoir des assouplissements, notamment avec l'autorisation de bals qui seraient donnés au profit des prisonniers de guerre, des déportés, des FFI, etc. En réalité, la brèche est ouverte et tout le monde s'engouffre dedans. Et dans une certaine mesure, on peut penser qu'à partir de ce moment-là, dans les faits, sinon en droit, les bals sont à nouveau autorisés.
Pascal Lamige.
Je pense aussi que ce sujet-là, des bals clandestins, n'est pas très très connu. Tout simplement aussi parce que les protagonistes ont mis eux-mêmes une espèce de chape de plomb là-dessus. Il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, nous, quand mon frère est rentré d'Allemagne, je lui ai jamais dit que moi j'allais au bal et faire connaissance, voilà.
Aujourd'hui, on regarde ça avec beaucoup de sympathie, en se disant, voilà, c'était culotté, c'était impertinent. Voilà, il y a aussi cette sympathie qu'on a aujourd'hui.
Il y a ça, c'est vrai que nous, on voit ça d'un côté, on a peut-être envie d'en faire un peu des héros, quoi. Ouais, c'est ça, c'est, ouais, youpi, ils l'ont fait, tout ça.
Alors, peut-être on peut aborder, Alain Cléveret, la question de la façon qu'on a aujourd'hui ou qu'ont, avec le recul, certains, de considérer ces bals clandestins, parfois de les assimiler à des actes de résistance consciente, parfois de les assimiler à des actes, alors héroïques, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas à quelque chose de pensé, de volontaire. Comment est-ce que vous pensez qu'il faut regarder ces bals clandestins?
C'est une vaste question. Alors, déjà, je pense qu'il faut définir ce qu'est la résistance. La France est occupée par les Allemands, avec donc un gouvernement qui est à la botte de l'occupant. La résistance est pour moi tout acte collectif, conscient, résolu, et quelles que soient ses formes, pas seulement militaires, mais militaires ou non violentes, renseignements, etc., aide aux persécutés, qui a pour objectif clair de s'opposer au but de l'occupant. Or, les bals clandestins, pour moi, n'entrent en aucune manière dans cette catégorie. En revanche, c'est effectivement un acte de rébellion contre l'ordre moral voulu par le gouvernement de Vichy et ensuite par les autorités qui ont pris la succession. C'est un acte par lequel une société certainement refuse un certain ordre des choses. Là, c'est très clair. Mais en faire pour autant un acte de résistance me semble un abus de langage. Après, que les gens, comme certains ont prouvé le mouvement en marchant, ils ont prouvé leur amour de la danse en dansant. Alors, une certaine confusion peut être faite par le fait que des résistants, bien sûr, ont dansé dans les bals clandestins, mais ils ont dansé dans les bals clandestins, pas seulement parce qu'ils étaient résistants, mais surtout parce qu'ils étaient jeunes. Hein. Ces jeunes maquisards, c'est des gens qui vivaient une vie dangereuse. Alors peut-être qu'ils avaient plus encore que les autres envie de s'étourdir, de s'amuser, de rencontrer des filles et de les tenir dans leurs bras. La motivation des femmes était plus vaste, c'était sans doute ça aussi, mais c'est surtout l'amour de la danse. Ce que les femmes mettent en avant, c'est l'amour de la danse. Et elles le prouvent d'ailleurs parce que quand il n'y a pas assez de cavaliers, les femmes dansent ensemble, ce que ne font pas les hommes, en général.
C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. Il n'y a pas d'accordéon, pas même un violon, la phono les remplace. Les clients ont 20 ans, par couple tendrement, la valse les enlace. C'est un bal défendu dans un petit coin perdu
du quartier Montparnasse.
J'allais au bal tous les dimanches à Cambronne. Les bals bretons, il y avait 3 bals bretons là-bas. Et qui c'est que je vois? Je vois un que je connaissais. Et puis, je vais lui dire bonjour, bien sûr. Et puis après, alors, tous les dimanches, on avait rendez-vous comme ça. J'avais dit à ma mère que j'avais rencontré Robert Olivier. Alors, elle a dit tout de suite, « Doses ont aimé. » Les deux, là, vont se marier. Donc, le destin, il est là. Je ne crois qu'en ça.
Moi, je ne répondais rien, mais mon cœur était si bien.
Mais pour nous, c'était quand même une belle partie quand on pouvait sortir comme ça la nuit. Et on ne faisait pas de mal à personne. On était 5 ou 6 filles qu'on était. Des gars, il n'y en avait aucun avec nous pour aller. Au retour, des fois, on trouvait un, mais pour aller, non.
Elles s'appelaient comment, vos copines?
Oh, il y avait 2 sœurs qui étaient René. Anaïs, ça a été 2 sœurs. Et il y avait Françoise Philippe, Denise Philippe, Louisette Gallou, Élise Guarin. Élise Accor a été avec nous aussi. Marie Sauyer.
Ah oui, des balles, ça c'était mon dada, ça. Oh là 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 là, à l'endroit, à l'envers. Oui, 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 j'étais connue. À l'endroit, à l'envers.
La balle descendue dans un petit coin perdu du quartier Montparnasse. Y'a pas d'accordéon, pas même un violon, un phono les remplace.
Merci à Germaine Olivier, danseuse, Eugénie Torchard-Dagnoux, danseuse, Joseph Crossover, danseur, René Carluère, danseur et accordéoniste amateur, André Roch, accordéoniste professionnel de Gaillac, Serge Doat, accordéoniste amateur, Marcel Azzola, accordéoniste professionnel, c'est le chauffe-Marcel de Jacques Brel, Pascal Lamige, accordéoniste et concepteur de Rêve Musette, Alain Quiléveré, historien des bals clandestins dans les Côtes du Nord. Merci aussi à Hubert Vialard, Claude Pénisson, Michel Blanc, Claude Nurit et Jean-Baptiste Turpin. Et à Marie-Laure Quiléveré, Marise et Guy Cazès et à la mairie de Vieux. Prise de son, Benjamin Thuot, Maïtran, mixage, Claude Niort, danser quand même, Perrine Kervran, Françoise Camard.
J'avais 20 ans.
Mais je m'en fous, tel qu'il est, il me plaît.
France Culture, l'heure du documentaire. Nous vous proposons podcast, écoute en ligne et possibilité de commentaires sur notre site. Demain à 17h, nous entendrons Avoir 18 ans avec le VIH. Et tout de suite, un peu de musique avant le journal de la rédaction à 18h.